Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, vous n'avez pas le temps de suivre l'actualité chaque jour, vous êtes perdu dans le flot des informations, pas d'inquiétude, chaque samedi nous vous offrons un résumé de 7 jours d'événements, je dis cela aux auditeurs qui nous rejoignent, les autres le savent, et je les remercie pour leur fidélité depuis 18 ans maintenant. Une semaine d'actualité à retrouver également sur le site de la radio www.rfi.fr. Après le flash, rendez-vous avec l'actualité africaine et avec vos messages. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Ukraine et les États-Unis, par exemple. Notre invité cette semaine est notre ami Sedi Kaba. Il est journaliste, observateur pertinent de l'actualité. Bonjour Sedi.
Bonjour Pierre-Edouard, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité cette semaine, Sedi?
Je pense que ce qui a été le plus marquant pour moi dans l'actualité, c'est cette exécution de notre confrère américain par l'État islamique au Levant. Cette exécution à la fois traduit un acte de barbarie, mais aussi pose le problème, nous amène à réfléchir sur notre profession elle-même, celle de journaliste appelé à couvrir le monde. Est-ce que nous devons prendre tous les risques pour couvrir le monde? Et si nous ne le faisons pas, est-ce que nous ne privons pas les auditeurs? Donc, à la fois, il y a cet acte de barbarie, mais il y a aussi une interrogation sur notre métier.
Nous allons évidemment en reparler, mais d'abord, ceci, Sedi Kaba. Nous parlions de l'épidémie d'Ebola samedi dernier avec notre invité, Ronnie Broman. Écoutez, le cri d'alarme, il n'y a pas d'autre mot qu'à lancer mardi Médecins sans frontières par la bouche, cette fois, de Joanne Liu, la présidente de Médecins sans frontières international.
Six months into the worst Ebola epidemic in history.
Cela fait 6 mois que la plus terrible épidémie d'Ebola a éclaté et le monde est en train de perdre la bataille pour la contrôler. Les plus hauts responsables n'ont pas réussi à prendre en charge cette menace transnationale. En Afrique de l'Ouest, les cas et les décès continuent d'augmenter au lieu de diminuer. Les centres d'isolement sont débordés. Le personnel de santé sur la ligne de front est lui-même infecté et meurt dans une proportion choquante. Les centres de traitement sont réduits à des lieux où les gens viennent mourir dans la solitude. Nous ne pouvons plus continuer comme ça, avec un tel nombre de gens infectés qui déferlent dans nos structures. En Sierra Leone, des corps infectés pourrissent dans la rue. Au lieu de construire des centres de soins pour Ebola, au Libéria, nous sommes obligés de construire des crématoriums. C'est votre responsabilité. Elle est historique. Vous devez agir maintenant. On ne peut pas tirer une couverture sur les pays qui sont touchés et espérer que l'épidémie s'éteigne tout simplement. Pour éteindre ce feu, nous devons entrer dans le bâtiment qui brûle.
Une autre voix dans l'actualité cette semaine et tout autre chose maintenant en France. À noter donc une petite phrase de François Rebsamen, le ministre du Travail, qui a déclenché une polémique si chère à ce pays.
Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi.
Et Pôle emploi a les moyens de renforcer
ces
contrôles. Concrètement, oui. Ça représenterait quoi? C'est plus de rendez-vous pour les demandeurs d'emploi, plus de coups de fil? Enfin, comment ça se passerait concrètement, renforcement?
Un état d'esprit différent, des convocations et des vérifications.
Sinon,
on est radié.
Sept jours dans le monde.
Sedi Kaba, nous allons cette fois parler du sommet de l'OTAN dans un instant, mais tout de suite partons pour cette région du monde, l'Ukraine. Pour les forces armées du pays, l'heure est à la déroute face aux séparatistes. Reportage de notre envoyé spécial Muriel Pomponne.
La situation est catastrophique, déclare Volodymyr Khouban, le responsable ukrainien qui négocie l'échange de prisonniers. 700 soldats ukrainiens ont été faits prisonniers par les rebelles ces derniers jours dans la région de Donetsk. Alors qu'à Kiev, la hiérarchie militaire veut faire bonne figure et parle d'organiser la défense, les témoignages qui remontent du front évoquent de plus en plus un manque criant de moyens. Un gilet pare-balles pour deux, témoigne un soldat. Un bataillon en première ligne depuis 2 mois au sud-est de Donetsk a décidé de battre en retraite tant qu'il ne sera pas équipé correctement. Tout a été sous-évalué, explique un responsable local. Des troupes prévues pour l'arrière, mal formées, sont envoyées au front, comme en témoigne dans la presse une femme de soldat. La responsabilité du commandement militaire est évoquée de plus en plus ouvertement. Des soldats de retour à l'arrière expriment leur colère contre l'état-major, contre les choix du ministère de la Défense, des décisions inadéquates, stupides. Désormais, on entend dans l'opinion publique que le président Porochenko devrait faire le nettoyage et mieux s'entourer.
La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. On vous parle du cessez-le-feu signé hier qui prévoit notamment un retrait des troupes russes d'Ukraine.
Une semaine d'actualité.
Donc, en compagnie de Sedi Kaba, on va reprendre quelques-uns de ces sujets traités. Ebola, bien sûr, je suppose que cette propagation du virus vous inquiète, Sedi.
Oui, absolument.
Alors, on a entendu tout à l'heure Johan Lui, la présidente de MSF International, qui s'adressait aux nations, à ce que l'on appelle la communauté internationale, à New York, aux Nations
Unies. Tout à fait, son cri d'alarme est tout à fait justifié, d'autant que le sentiment qu'on a, c'est que les États concernés, notamment la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, sont laissés à eux-mêmes. On les laisse se débrouiller, même sur le plan africain. La réaction de l'Union africaine et celle de la CDAO ont été relativement tardives. La réaction de la communauté internationale, elle semble encore inexistante. C'est
alors
tout
il faut,
à fait exact.
Il faut rappeler qu'hier, l'Union européenne a décidé de débloquer une somme de 140 millions d'euros pour venir en aide aux pays touchés.
Tout à fait. Et vous savez, entre le moment où ces institutions annoncent le blocage de la somme et le moment où elles arrivent, il se passe un temps. Là, nous sommes dans une situation d'urgence. Il faut espérer qu'il y ait des procédures exceptionnelles pour permettre que cet argent arrive rapidement. Il y a aussi des États comme la France qui ont décidé d'envoyer du personnel. Des logisticiens sont arrivés pour en Guinée notamment pour aider ces pays. Il faut agir vite parce que l'épidémie, elle ne faiblit pas. Nous sommes aujourd'hui à près de 1900 morts, à plus de 3000 cas et une estimation de l'OMS table sur près de 20 millions de cas si on ne prend pas garde. Donc, il y a urgence à agir, il y a urgence à aider des États comme le Libéria et la Sierra Leone qui sont des États en situation post-conflit parce que le Libéria comme la Sierra Leone ont connu de longues années de guerre civile et les infrastructures sanitaires se sont complètement effondrées. Le personnel médical de qualité s'est exilé à Londres notamment et aux États-Unis. Donc il y a un besoin d'accompagner ces pays pour éviter la propagation de la maladie. Elles sont parties de ces trois pays, mais aujourd'hui la maladie est arrivée au Nigeria, elle est arrivée au Sénégal et on ne sait pas. Donc si elle se propage dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, il y a des risques qu'elle s'élargisse sur tous les continents et dans l'autre partie du monde, ailleurs
et
dans
on,
le monde.
Et on le verra que dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a en quelque sorte maintenant une psychose. On le verra tout à l'heure en Côte d'Ivoire, par exemple. Et la petite phrase, et là je parle de l'actualité française de François Rebsamen qui, en pleine crise du chômage, alors que le chômage augmente de mois en mois, dit qu'en fait, il faut renforcer les contrôles parce que beaucoup de chômeurs ne cherchent pas le travail.
Je crois que son propre parti, le Parti Socialiste, l'a quasiment désavoué. M. Cambadélis a dit que ce n'était pas pertinent parce que le chômeur n'est pas responsable de sa situation. Et il est prouvé que, dans la plupart des cas, les chômeurs, les demandeurs d'emploi, pour utiliser l'expression appropriés, font des démarches. Maintenant, renforcer des contrôles me paraît totalement inutile. Ce qu'il faut faire, c'est créer des emplois pour que les gens puissent y prétendre et puissent sortir du chômage. Je ne pense pas qu'il soit dans la volonté de quelqu'un de rester dans le chômage simplement parce qu'il y a une allocation qui lui est donnée. Parce que très souvent, ce qu'on ne dit pas, l'allocation ne représente pas le salaire, c'est pas l'équivalent du salaire, c'est dans certains cas c'est un tiers, dans certains cas
c'est moins
que ça et elle est limitée dans le
évidemment.
Temps. Comme dans toute œuvre humaine, il y a quelques brebis galeuses, mais on ne peut pas à partir de quelques cas qui sont marginaux considérer que l'ensemble des chômeurs sont des gens fainéants. Auxquels on donne de l'argent gratuitement et qui dorment chez eux.
Alors dans les journaux ce matin on parle de l'Ukraine, du cessez-le-feu. Il faut quand même noter d'ores et déjà que l'OTAN a annoncé hier, vendredi, la création d'une force qualifiée de très réactive pour répondre aux crises en Europe. Là c'est quand même un message adressé à Vladimir Poutine.
Absolument. Après les sanctions, là on est quand même dans une démarche martiale, même dans une démarche militaire. L'OTAN veut donner l'impression que si jamais c'est nécessaire, cette force pourrait intervenir en Ukraine pour aider l'Ukraine. Mais il y a cela, mais il y a, comme vous l'avez si bien dit, le fait que l'armée ukrainienne a enregistré des revers après les succès. Donc, ça, de mon point de vue, ça conforte la nécessité de trouver une solution politique. Même si on envisage l'option militaire, il faut trouver une solution politique. Et de ce point de vue, le fait qu'il y ait des discussions assorties d'un calendrier politique me paraît être une bonne chose.
Une semaine d'actualité.
Sadiq, revenons maintenant sur l'exécution d'un journaliste américain, Stephen Sotloff, par l'État islamique. Vous y faisiez référence en commençant cette émission. L'EI, qui avait déjà exécuté le 19 août dernier le journaliste américain James Foley à Washington, Anne-Marie Capomaccio.
De nombreux élus estiment que le temps de la réflexion est passé, alors que Barack Obama, égal à lui-même, montre un sang-froid que certains assimilent à une incapacité à décider. Même les démocrates, qui soutiennent la politique du président, font savoir que l'État islamique n'est plus un problème irakien. L'assassinat des deux journalistes en a fait un sujet qui touche tous les Américains. Il faut donc agir contre ces terroristes jusqu'en Syrie. L'administration n'est pas indécise, se défend le ministre de la Défense Chuck Hagel.
La mission est très claire. Nous présentons au président des options afin de dégrader et de détruire les capacités de l'État islamique.
1100 militaires sont désormais sur le terrain. Plus de 120 raids ont été menés contre l'avance de l'État islamique en Irak. La Syrie est la prochaine étape, mais dans quelles conditions et dans quels délais? Les services de renseignement rassemblent depuis des semaines des informations sur les cibles potentielles. La Maison-Blanche souhaite d'une part un feu vert de la communauté internationale, d'autre part l'accord de son congrès, afin de ne pas se retrouver dans la situation de l'administration Bush. Le passage est étroit pour Barack Obama, qui ne veut pas s'engager dans ce qu'il estime être un bourbier, mais doit rassurer les Américains et redorer son image avant la fin de son dernier mandat.
Le désarmement chimique syrien, au fait, où en sommes-nous? Le Conseil de sécurité de l'ONU a fait un point jeudi sur un sujet qui faisait la une de l'actualité il y a un an. New York, Karim Lebourg.
Près d'un an après l'injonction du Conseil de sécurité à la Syrie de détruire ses armes chimiques, la tâche est pratiquement terminée. 96% des stocks d'agents chimiques ont été détruits par la mission de l'ONU. Pour nombre de diplomates qui tablaient sur la mauvaise volonté de Damas, c'est même une surprise. Reste cependant une question, la Syrie a-t-elle vraiment tout déclaré? Devant le Conseil de sécurité, l'envoyé de l'ONU, Sigrid Kaag, s'est inquiété de discordance dans les rapports syriens. En fait, les Syriens ont changé 4 fois leur déclaration. L'américaine Samantha Power craint que des stocks cachés ressurgissent entre de mauvaises mains.
S'il reste des armes chimiques en Syrie, il y a un risque qu'elles tombent entre les mains de l'État islamique. Et on peut imaginer ce qu'un groupe comme celui-ci ferait avec de telles armes.
Le Conseil de sécurité a également relevé l'usage à répétition par l'armée syrienne d'attaques au chlore, un produit qui n'est pas considéré comme une arme chimique, très simple à utiliser et tout aussi meurtrier.
Suite d'une semaine d'actualité, Sadiq Abba, le sommet de l'OTAN à Newport, au Pays de Galles, qui avait donc pour thème l'Ukraine, on en parle dans les journaux, avait été initialement prévu pour parler de l'Afghanistan. Il a quand même été question de ce pays, envoyé spécial Abla Junaidi.
Ce sommet de l'OTAN devait être celui qui clôt solennellement le plus long et le plus vaste engagement militaire de l'Alliance. Mais l'Afghanistan a presque été éclipsé par la crise ukrainienne. Ce jeudi, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a exposé les suites que l'Alliance imaginait pour la présence internationale en Afghanistan après le retrait des forces combattantes fin 2014.
Les alliés et partenaires de l'OTAN sont prêts à lancer une nouvelle mission non combattante pour entrer conseiller et assister les forces afghanes dès 2015. Nous sommes prêts à aider ces forces financièrement dans le cadre de nos vastes efforts internationaux. Nous leur renouvelons notre engagement financier et notre soutien jusqu'à fin 2017. Et nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement pour un partenariat durable entre l'OTAN et l'Afghanistan.
Mais le temps presse pour l'Afghanistan. Les deux candidats de la présidentielle de juin revendiquant la victoire, le pays n'a toujours pas de président. Or, c'est le chef de l'État qui doit signer les accords autorisant l'OTAN à entreprendre sa mission non combattante au-delà de 2014.
Une semaine d'actualité.
En compagnie de Sadiq Abba, donc on revient à cet État islamique, à la Syrie, à l'Irak, et à cette formation, cette tentative de formation par les États-Unis d'une coalition pour lutter contre cet État islamique. John Kerry disait hier, en marge du sommet de l'OTAN, qu'il fallait une coalition pour détruire cet État islamique. Vous y croyez, vous ?
Je pense que le problème étant devenu régional, parce que au-delà de l'Irak, où la situation est devenue très dramatique. Il y a aussi aujourd'hui des excursions de l'État islamique au Levant jusqu'au Liban. Le Liban, aujourd'hui, l'armée libanaise est confrontée à cette situation. Donc, la perspective d'une solution régionale me paraît pertinente. En dépit, aujourd'hui, des divergences qu'il y a entre des pays comme les États-Unis d'une part et l'Iran d'autre part, qui ont été longtemps des ennemis jurés, il y a nécessité de trouver une solution et les États-Unis sont bien inspirés de pouvoir associer les pays. Parce que si les pays comme la Syrie, comme l'Iran ne sont pas associés, les frappes ne suffiront pas. Ça peut être comme on l'a vu dans le Nord Mali, les djihadistes qui disparaissent, qui se fondent dans la population sans qu'ils aient renoncé à leur capacité de nuisance. C'est pour cette raison, à mon avis, que la perspective d'une solution régionale me paraît beaucoup plus justifiée qu'une intervention américaine unilatérale qui aurait l'inconvénient de faire de l'Irak ce que l'intervention qui a été pilotée par Bush a fait. Aujourd'hui, l'Irak est un État totalement désintégré, qui n'existe quasiment pas, et ce qui a facilité aussi la formation de l'État islamique au Levant.
Sauf que ça prend plus de temps, évidemment, de bâtir une coalition, et c'est ce qui est reproché à Barack Obama aux États-Unis. On l'accuse d'être mou, finalement.
C'est tout
enfin,
à
certains
fait.
L'accusent
tout
d'être
fait.
Mou, les Républicains, notamment.
Je comprends l'inquiétude de ceux qui pensent qu'il faut agir vite. Mais il faut aussi prendre le temps de trouver une solution adaptée au problème. Il faut que le remède soit adapté au mal lui-même. Il ne s'agit pas de faire comme, pour prendre une image médicale, d'amputer l'organe alors que la métastase continue.
Il faut que les services de renseignement donnent des renseignements précis pour savoir où frapper.
De façon efficace, il faut associer des pays pour au moins, même s'ils ne sont pas impliqués dans la coalition, ferment leurs frontières de sorte que les militants, les djihadistes ne se replient pas dans ces pays et qu'ils reviennent un jour reconstituer leur force.
Je voulais qu'on parle du désarmement chimique syrien, Sédic, parce qu'il y a là aussi une inquiétude. Si l'État islamique met la main sur des stocks non déclarés d'armes chimiques syriennes, le résultat peut être évidemment inquiétant.
Désastreux, le résultat peut être catastrophique, parce que ces gens dont on a vu la barbarie, l'exécution, cette mise en scène macabre, l'exécution de ces deux journalistes, les gens qui en sont arrivés là, sont capables, une fois qu'ils ont des armes chimiques, de détruire quasiment toute la sous-région. Donc, il faut absolument éviter que des stocks de cette nature tombent entre les mains de ces djihadistes. C'est pour cette raison, à mon avis, même si jusqu'ici la Syrie a fait preuve de bonne foi en donnant les informations sur le matériel qu'elle a, il faut demeurer vigilant et il faut continuer à réclamer des preuves que l'essentiel a été que les armes chimiques ont été entièrement détruites en Syrie.
Alors, un dernier mot pour conclure cette première partie d'une semaine d'actualité sur l'Afghanistan. On a totalement oublié l'Afghanistan. Du coup.
Oui.
Les Américains sont censés...
Malheureusement, c'est ça le principe de l'actualité. Une actualité cherche toujours une autre. Un moment, c'était la Syrie qui était l'épicentre, qui était le cœur de préoccupation. Ensuite, c'est devenu l'Irak. Et aujourd'hui, on a tendance à oublier l'Afghanistan où la situation n'est pas totalement apaisée. En plus de la situation sécuritaire qui était déjà très mal en point en Afghanistan, il y a aujourd'hui le contentieux politique né de cette élection présidentielle où les deux candidats revendiquent la victoire. Il y a eu une tentative de compromis et on pensait même que le compromis a été trouvé, qu'il y aurait une co-gestion du pouvoir. Mais là, apparemment, les tensions vont demeurer et la situation sécuritaire et le problème politique risquent de ramener l'Afghanistan dans une situation dont on pensait que le pays s'est
tiré. Avec évidemment la menace des talibans.
Avec la menace des talibans et la perspective du départ définitif des États-Unis et des troupes de la coalition internationale. Parce que l'idée de transférer aux forces de défense et de sécurité afghanes la sécurité du pays est toujours au centre. Si aujourd'hui on a le sentiment que si c'est fait, il y a des risques que les talibans reprennent le contrôle de la situation, ce qui serait un danger pour l'ensemble de la sous-région et qui ferait que l'ensemble du travail qui avait été fait n'a servi à rien.
Sédic Abba, nous allons faire une pause pour écouter quelques nouvelles du monde. Il sera sans doute question de l'Ukraine notamment et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.